Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. En miroir d'une exposition qui se tient actuellement au Grand Palais à Paris, consacrée au peintre Toulouse-Lautrec, plein feu sur cet artiste hors norme, à la fois aristocrate et anticonformiste, provocateur et iconoclaste, un homme petit par la taille mais géant par le talent, un jouisseur qui a aimé boire, aimer, manger et créer jusqu'à sa mort prématurée à l'âge de 36 ans seulement en 1901. Bonjour Mathieu Mégévan.
Bonjour.
Lautrec, titre éponyme de votre nouveau livre qui paraît aux éditions Flammarion, vous a visiblement vous aussi fasciné puisque sa vie, son génie, son énergie sont au cœur de votre roman tout autant virevoltant et exubérant que l'était le peintre. Et en même temps, ce texte s'inscrit dans un cycle que vous intitulez « Créer, détruire » où en effet Lautrec, deuxième artiste de la série, a toute sa place. Mais de fait, est-ce parce que l'autodestruction semble inhérente à son processus de création que vous vous êtes intéressé à lui ou pas ?
Oui, enfin, disons, c'est toute la question du projet de trilogie, donc avec un poète, un peintre, un musicien. Le poète, c'était Roger Gilbert Lecomte, le livre paru l'année passée. Le musicien, ce sera Mozart, c'est pas pour tout de suite. Et donc le deuxième était Toulouse-Lautrec. J'étais entre guillemets servi, puisque l'homme et sa création se confondent. L'un et l'autre ne se distinguent pas. Donc, l'objectif, si on peut parler d'objectif, mais un des enjeux du texte, c'est vraiment d'essayer de suivre cette vie entièrement consacrée à cet art, là, en l'occurrence à la peinture et à une peinture assez particulière en plus, et qui s'accompagne d'une destruction progressive de l'homme. Et savoir comment l'un et l'autre sont articulés, comment tout ça vit et survit, c'est ce qui me fascine.
Donc, une articulation entre l'œuvre et l'homme, et un genre littéraire, la fiction. Pour épouser tous les excès de Lautrec et après une scène d'ouverture en 1891, vous le saisissez véritablement en 1886. Il a 22 ans, il vit à Paris, prend des cours de peinture et de sa vie antérieure, vous ne dites que deux, trois mots. L'accident des deux jambes qui cause en effet l'arrêt de sa croissance et de fait, il ne mesurera adulte qu'un mètre cinquante. Environ, et le lien fusionnel avec sa mère. Pour vous, donc, c'était le plus important à savoir, Mathieu Mégévan.
Disons qu'en travaillant, puisque évidemment, avant d'écrire, il y a tout un travail de recherche qui est très long, qui est plus long que le travail d'écriture, et donc en travaillant sur Toulouse-Lautrec, ça me frappait beaucoup comme on insistait sur cette enfance, sur donc la maladie consanguine, due au fait que ses parents étaient cousins germains, ce qui est très aristocratique évidemment, et c'est ce qui a causé les fractures des deux jambes, et puis en fait cet aspect extrêmement, on va dire, étrange et repoussant qu'il pouvait avoir. Mais toute cette partie-là de l'enfance était un petit peu surmise en avant à mes yeux, c'est-à-dire que comme si d'une cause on arrivait à un effet de manière quasiment mécanique, et donc de cette enfance un peu particulière, avec un petit bonhomme qui grandit plus et qui doit aller en cure, etc., qui est très proche de sa mère. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'aspects qui sont très mis en avant dans les biographies ou dans les différents textes que j'ai pu lire sur Lautrec. Et moi, je voulais pas trop m'attarder sur cet aspect-là, sur son aspect physique, bien sûr, mais tout au long de sa vie, ça y revient. Mais sur l'enfance et sur le départ, qu'on sache évidemment à gros traits d'où il vient, donc que c'est un aristocrate, ce qui est très important, je pense, pour toute sa vie pour sa manière de concevoir la peinture et dans son rapport aux gens. Sur plein d'aspects, en fait, pour moi, c'est avant tout un aristocrate, parce qu'il est libre, extrêmement libre, libre d'aller voir des prostituées, d'aller au bal, d'abandonner les danseuses et d'aller vers un autre sujet quand ça l'intéresse plus, de ne pas se lier à un mouvement pictural. À l'inverse, par exemple, de Van Gogh, qui lui avait très envie toujours, vous voyez, avec Gauguin, etc., de créer des mouvements. Lui, il était au-dessus de ça. Enfin, je pense qu'il avait une espèce de liberté aristocratique, Lautrec, qui va garder toute sa vie. Mais je voulais pas trop m'attarder sur l'enfance pour ne pas justement tirer d'une cause un effet mécanique, pour moi un petit peu simplificateur.
Donc ce n'est pas une biographie de Lautrec, mais bien une captation des sensations, et on le voit sous votre plume, Mathieu Mégévan, comme un trublion sans cesse, et on se demande avec vous, mais d'où vient cet appétit immense qu'il a de peindre, de vivre, d'aimer, de boire, pas une page, pas un jour, une soirée seulement sans alcool, sans le plaisir des chairs, de la chair. D'où ça vient, ça ?
C'est toute la question. Et en fait, évidemment, si j'avais une réponse facile et toute faite, j'aurais même pas écrit le livre parce que ça serait pas très intéressant. Et j'ai pas de réponse immédiate et absolue pour expliquer cette espèce de dévoration permanente qu'il y a chez lui, que ce soit à titre véritablement de nourriture, d'alcool, etc., mais aussi dévoration des autres, parce que les autres qu'il regarde, qu'il observe, qu'il scrute, voilà, c'est des mots qui reviennent souvent dans le livre, il les dévore, il les ingurgite et il les recrache sous forme de peinture ensuite. Donc, moi, c'est ce qui m'a fasciné, déjà en tant que simple spectateur, en regardant des peintures de Lautrec. C'est cette façon qu'il a d'attraper, de croquer les autres, de les saisir. Et on se sent véritablement avec lui dans des scènes étranges, inhabituelles, surtout pour son époque. Ensuite, ça a changé, mais enfin, voilà. Donc, il a cette force-là et cette volonté-là qui, moi, je trouve fascinante. Et dans le livre, l'idée, c'était vraiment de suivre et de rendre ça plutôt que de l'expliquer. Ensuite, le lecteur, la lectrice se fait son avis sur le pourquoi peut-être ou sur comment on en arrive. C'est pour ça, ça répond en même temps à votre question sur l'enfance. C'est-à-dire que moi, d'amener une cause et d'arriver à un effet, enfin, on fait plutôt ça dans les polars et moi, c'est pas un genre qui m'intéresse beaucoup. Je préférais vraiment me consacrer à cette vie comme lui-même s'était consacré à sa propre vie et à son propre art et d'y plonger le lecteur et de m'y plonger moi-même, en fait.
Donc Lautrec, même s'il est aristocrate, quand il arrive à Paris, d'une certaine façon, il vit totalement la bohème. Il vit même autant dans la rue, j'ai envie de dire, que dans son atelier. Il fréquente plus les bistrots que les galeries. D'ailleurs, sa première exposition ne date que de 1893, entre guillemets. La rue donc, mais ça veut dire les terrasses de café, les cabarets, les maisons closes, les danseuses, les prostituées qu'il côtoie au quotidien. Et ce sera ça la matière, la source première de son œuvre, inspirée aussi par exemple par des lieux tels que le Mirliton, le Chat Noir, tenu par Aristide Bruand, le célèbre Moulin Rouge, et puis juste avant le Moulin de la Galette, d'ailleurs, que Lautrec va peindre dans un style tout à fait différent de celui de son aîné, Renoir. Est-ce que vous voulez bien, Mathieu Mégévent, nous lire cet extrait de votre livre Lautrec, où vous le saisissez justement à ce moment précis.
Volontiers. Ici, au Moulin de la Galette, déjà légendaire et que Renoir, 15 ans plus tôt, a saisi, Lautrec regarde, et de son œil neuf et dévidé, il voit. Voit les danseurs et les danseuses, les talons, les hautes formes, les complets, les roulis des corps, le dandinement des hanches. L'enlacement des couples aussi, les discussions et les gestes vifs, l'agglutinement des êtres. Tout cela devrait respirer l'allégresse. Et pourtant, à y regarder de plus près, cette foule ressemble à s'y méprendre, à une assemblée d'automates. Les yeux sont vides, les visages passés, les vêtements eux-mêmes, taillés comme des uniformes de prisonniers. Et ce petit monde, comme contraint de déambuler sur le parquet de la grande salle, condamné par le sort à errer au bal, comme une armée de spectres. Vois aussi quelques personnages qui se détachent, assis, attablés, spectateurs de la fête et sans doute, à en juger par leur mine, de leur propre vie. Un homme, sec et usé, coiffé d'un chapeau melon et affublé d'une moustache fournie. Une rousse, bien sûr, dont on ne devine que la chevelure écarlate. Deux femmes, une laide, allongée, la peau de son menton qui pend comme le fanon d'une dinde. L'autre, jeune, belle, de profil, celle peut-être que le peintre admire et, comment s'en empêcher, désire le plus. Il inspecte, griffonne dans son carnet, croque les scènes, amasse figures et postures et, une fois le bal achevé, quand les dernières silhouettes ont quitté la fête, que les poules et les musiciens ont plié bagages, Lautrec rentre à son atelier, sans s'accorder de repos, prépare une toile et son sujet qu'il possède comme un mauvais sort, peint. Dans ce qui deviendra le tableau au Moulin de la Galette, le petit homme a tout mis. Ce qu'il voyait, ce qu'il avait rempli, mais surtout, ce qui depuis trop longtemps le dévorait. Ruine, défaite, désillusion. Et alors qu'on attendait d'une scène de bal gaieté, douceur, sucrerie, ce ne sont là comme une fermée, corps mécanique, et sur les visages, pas un seul sourire. Qu'il semble loin et dépassé, déjà, le tableau éponyme de Renoir, pourtant jugé révolutionnaire en son temps. Que tout cela paraît sage et bien rangé, ces chapeaux de paille, les citronnades, le gravier qui crisse sous les pas prudents des danseurs. Qu'a-t-il bien pu se passer entre 1876 et 1889 pour qu'un jeune homme de 25 ans à peine, puisse ainsi faire passer le joyau de l'impressionnisme pour une vieille croûte à papa. Quelle rage l'a pris, quelle muse l'a donc piqué. C'est pas, c'est le serpent, dira Lautrec pour toute réponse.
Merci beaucoup, Mathieu Mégévent. C'est quoi le serpent alors ?
Le serpent, c'est la métaphore que j'ai utilisée, et là alors de manière tout à fait romanesque, pour tenter de décrire une possession, c'est-à-dire cette chose qui prend Lautrec, parce que d'abord ça, il commence par dessiner par désœuvrement, on va dire, quand il est en cure justement suite à ses accidents, quand il est enfant, enfin jeune adolescent, mais ensuite quelque chose va le prendre littéralement, et c'est ce quelque chose qui prend, et j'utilise des mots extrêmement banals là, mais c'est cette chose-là en fait qui moi m'intéresse dans toute la trilogie et pour Toulouse-Lautrec. Ce que j'appelle le serpent, c'est une possession qui fait que, sans qu'il puisse l'expliquer, sans que même en lisant tout ce qu'on peut lire sur ce peintre ou sur un autre artiste d'ailleurs, on peut chercher, jamais on trouvera vraiment une explication à ce phénomène qui est se dédier à ce point à quelque chose qui ne vous demandait pourtant rien et au prix de sa propre vie. Parce que je veux dire, il meurt quand même à 36 ans, complètement défait, la peinture de la fin de sa vie. Alors ça, je ne suis pas sûr que le commissaire d'exposition sera d'accord avec moi, mais moi, je la trouve vraiment moins bonne parce que, voilà, il est alcoolique, il a la syphilis, enfin, c'est une déchéance véritablement. Et tout ça est lié à cet art auquel il se consacre corps et âme. Je l'ai appelé le serpent parce qu'en plus, comme il avait de grosses lèvres, il y a une allitération que je trouvais intéressante. Mais c'est pour moi une assez bonne métaphore pour parler de cette chose, de cette possession, de là en l'occurrence, comme un reptile qui vous entourerait, qui vous enlacerait jusqu'à vous faire étouffer. Et Lautrec, d'une certaine manière, meurt de son art.
Et vous prendre dans une espèce de danse effrénée. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec cet air du French Cancan d'Offenbach, indissociable du Moulin Rouge dans le Montmartre du 19e siècle à Paris que fréquentait le peintre Henri de Toulouse-Lautrec dont nous parlons aujourd'hui avec l'écrivain Mathieu Mégévent qui nous emporte dans son nouveau roman dans un tourbillon de création, d'obsession mais aussi d'autodestruction. D'un artiste qui laissera à sa mort en 1901 à l'âge de 36 ans une œuvre composée de plus de 700 toiles, 300 affiches environ, où les femmes, danseuses, prostituées de la Goulue à Jeanne Avril ont été au premier plan. Il faut dire que Lautrec a été très souvent amoureux, rarement en retour. Est-ce que c'était lié aussi au fait peut-être qu'il ne magnifiait pas ses modèles, mais qu'au contraire, il pratiquait une représentation authentique ?
Bon, je pense qu'une des premières choses, hélas pour lui, qui a empêché l'amour d'être réciproque, c'est son aspect physique, puisqu'il n'était pas particulièrement bel homme, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, comme vous l'avez dit, il faisait 1m50, il avait une tête très étrange, des très grosses lèvres, un gros nez, il était un peu bouffi, en plus sa consommation d'alcool, etc. Enfin, ne devait pas améliorer cet aspect. Donc, à mon avis, la première des choses, tout bêtement entre guillemets, c'est qu'il était un peu repoussant pour la plupart de ses modèles, qui devait ensuite apprendre à l'aimer et à l'apprécier, parce qu'elle se rendait bien compte qu'il se consacrait à elle corps et âme, que ce soit Jeanne Avril, la Goulue, puis les prostituées, et puis d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Je veux dire, c'était pas quelqu'un qui venait, qui faisait son croquis, au revoir, et puis qui se désintéressait de ce modèle. Il faisait des peintures et des peintures, des affiches, des portraits en croquis très rapide sur des fonds non finis. Enfin, il y avait tout un processus créatif autour de ces modèles qui était là aussi... une possession et ensuite un délaissement parfois parce que justement l'amour n'était pas réciproque et qu'il fallait bien passer à autre chose. Mais sur le fait qu'il saisissait ses modèles plutôt qu'il les embellissait, ça a gêné certaines, ça c'est sûr. Yvette Guilbert par exemple, la chanteuse, qui alors au début carrément refuse en fait l'affiche qu'il propose et les dessins qu'il fait d'elle, la trouble considérablement. Mais contrairement à là aussi quelque chose que moi j'entendais beaucoup quand je travaillais sur le trait, qu'on me disait « Ah, c'est le peintre qui enlaidit les gens ». Mais absolument pas, il les rend à eux-mêmes en fait. Et alors évidemment, quand on est rendu à nous-mêmes, on est avec toutes nos imperfections et aussi les choses qu'on refuserait de voir, mais que lui, le peintre, a vu à force de nous regarder, de nous observer, etc. Et le trait, c'était ça son génie en fait. C'était de parvenir à capter et à rendre ces personnes dans tous les aspects de leur vie intime ou dans leur carrière, entre guillemets, de danseuse, de chanteuse. Mais je pense qu'il y a un véritable génie dans la manière de dévorer l'autre, puis de le rendre, et qu'au final, l'ironie veut que la plupart de ces modèles, dont certaines, comme Yvette Guilbert, ont refusé certaines de ses peintures, ils sont tous connus aujourd'hui grâce à Lautrec. Je veux dire, qui se souviendrait de la Goulue, même de Bruant, enfin oui, on s'en souviendrait peut-être, mais enfin, je veux dire, il les a rendus célèbres presque pour l'éternité, et on les voit dans les expositions, et en fait, donc, tous ces gens qui étaient entre guillemets des stars, et lui le peintre qui croquait, les rôles se sont complètement inversés grâce à ce génie.
Effectivement, c'est ce que vous écrivez, derrière ces dessins aux apparences peu flatteuses se révèle la chair derrière le masque, l'ombre sous la clarté. Donc c'est aussi un des premiers qui ose ce geste presque de transgression, effectivement, de nous révéler à nous-mêmes comme dans un miroir, même si ce n'est absolument pas dans les canons de l'époque.
Oui, alors il a cette particularité d'être sans concession par rapport à son modèle et justement, effectivement, de le révéler tel qu'il l'a capté. Alors évidemment, il y a une grande subjectivité dans cette captation, ça c'est logique, mais pour n'importe quel peintre c'est le cas. Mais effectivement, c'est très brut, très charnel, très incarné, et ça, c'est relativement nouveau. Alors évidemment, lui, il a un maître qui l'aura toute sa vie, c'est Degas. Degas avait commencé à faire ça. La réciproque du maître-élève n'est d'ailleurs pas vraie, parce que Degas n'appréciait pas beaucoup la peinture de Lautrec. Il s'est trompé, il était extrêmement sévère, et d'ailleurs un peu malveillant, je dirais. Mais c'est vrai que Lautrec a amené la peinture, je sais pas si c'est unique, ce serait très difficile à dire, mais en tout cas, il l'a amené dans un endroit où est très particulier, où elle allait peu, bah déjà à cause des sujets, je veux dire, aller voir des prostituées et vivre 6 mois dans un bordel, il y a peu de peintres qui faisaient ça, et encore aujourd'hui. Et aussi, justement, alors que Degas traitait, voyez, l'opéra, des choses quand même nobles, malgré tout, Lautrec, lui, ayant cette obsession de la chair, il a voulu en rendre compte dans tous les endroits où celle-ci lui paraissait le plus authentique, et c'est pour ça qu'il passe des bals, des cabarets aux prostituées. C'est non pas du tout une descente sociale, parce que tout ça, je pense qu'en tant que bon aristocrate, l'intéressait pas du tout. Et c'était pas non plus une dénonciation, donc je pense pas que c'est un naturaliste au sens de Zola, vous voyez, avec cette envie de dire quelque chose sur la société. Ça non plus, je pense que ça l'intéressait pas du tout, parce qu'il était au-dessus de ça. Mais c'est vraiment les corps, les personnes, les êtres et ceux qu'ils incarnent qui le passionnaient.
Le style Lautrec dont nous parle le commissaire de l'exposition Toulouse-Lautrec, qui est à voir en ce moment au Grand Palais à Paris, et que Carmen Lunzmann a rencontré, Stéphane Guégan.
On parle de lui comme d'un peintre réaliste un peu radical, un peu impitoyable, qui n'aurait rien laissé passer, la moindre disgrâce, la moindre déformation. C'est aussi une esthétique de la suggestion. Quelques traits, quelques couleurs, la perspective accélérée, telle que Lautrec la développe à partir d'un tableau comme au Cirque Fernando, autour duquel on a organisé toute une salle. Cette scène de cirque qui frémit, qui vibre, nous permet de comprendre que c'est le mouvement qu'il cherche en peinture. Le cheval d'ailleurs a choqué, jusqu'au XXe siècle, par la vue du sexe du cheval et de son anus. Premier plan.
Provocation, donc, folie. Une folie, d'ailleurs, qui, selon vous, Mathieu Mégévent, le rapproche d'un autre artiste qui, lui, n'est pas du tout dans cette attitude outrancière, au contraire, Vincent Van Gogh, dont vous dites qu'ils ont été amis, comme s'ils s'étaient reconnus l'un et l'autre dans leur peinture qui ne ressemblait à aucune autre.
Oui, et là, il y avait aussi quelque chose de très romanesque, bien sûr, puisque ce qui est historique, c'est qu'ils partagent un cours, le cours de Cormon, boulevard Clichy, et c'est là qu'ils se rencontrent. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air extrêmement dissemblables, alors déjà physiquement, mais en plus leur caractère, voilà, on imagine un Hollandais protestant, très froid, etc., et cet aristocrate du sud de la France, petit mais exubérant, et donc ils ont l'air très dissemblables de caractère, de physique. Leurs peintures, par contre, vont s'influencer mutuellement, et notamment le portrait que Lautrec fait de Van Gogh, quand ils se côtoient, avant qu'ensuite Van Gogh parte, puis après il va mourir. Ce portrait que fait Lautrec, si on le regarde, moi j'ai trouvé très frappant, la technique utilisée par Lautrec est clairement influencée par la technique de Van Gogh. Dans les traits, vous voyez, ces traits qu'on reconnaît très bien, qu'on voit sur, avec les lunes, etc., les soleils, c'est très assuré comme ça. Il y a une claire influence. Donc il y a une émulation artistique entre ces deux légendes désormais de la peinture. Et moi, je trouvais très intéressant à rendre dans le roman parce que c'est d'une certaine manière l'art et l'art seulement qui les fait se rejoindre, et non pas justement ni leur caractère, ni leurs affinités, ni leur éducation, leur passé, etc. Non, c'est vraiment cette possession créatrice qui les habite et qui va les tuer, l'un et l'autre, en fait, qui les fait se rejoindre et s'aimer.
Alors, ce sont de très beaux dialogues que nous lisons sous votre plume, Mathieu Mégévent, entre, par exemple, Van Gogh et Lautrec. Il y a aussi, effectivement, une passe d'armes entre Degas et Lautrec. Et de fait, je me demandais comment est-ce que vous aviez documenté ce roman, dans la mesure où vous nous faites assister à de nombreuses scènes où il n'y avait pas de témoins directs. Par exemple, j'ai été frappée par un épisode où une de ses maîtresses le manipule, prétend se suicider, l'oblige à aller chercher de l'argent, il part, finalement il se rend compte qu'il a des billets dans sa poche, donc il fait demi-tour, il revient en courant et là, sur le pas de la porte, il entend sa maîtresse qui est en train de se moquer de lui et de se féliciter de l'avoir bien eu. Et je me disais, mais comment savez-vous ce qui s'est passé, Mathieu Mégévent ?
Mais je ne le sais pas, et c'est bien pour ça que c'est marqué roman et que c'est pas une biographie, parce que s'il y a un long, vraiment très long travail de recherche qui est fait comme pour une biographie, ensuite, le romanesque prend le pas, bien sûr. Ce qui veut dire que, si vous voulez, l'objectif général pour les trois, c'est toujours le même processus. Tout doit être plausible, mais j'ai le droit d'inventer. Ce qui veut dire qu'il y a des scènes qui sont extrêmement proches de la réalité historique, entre guillemets, parce que c'est documenté selon tel ou tel cas, et d'autres scènes qui peuvent être de la pure fiction, mais elles doivent rester plausibles par rapport au parcours du personnage, par rapport à ses préoccupations personnelles, artistiques, etc. Donc à chaque fois qu'il y a un dialogue, etc., c'est une invention de ma part. D'ailleurs, c'est signalé normalement dans le texte par des astérisques si c'est un mot authentique de Lautrec, mais il y en a très peu que moi j'ai rapporté. Sinon, c'est vraiment de l'invention romanesque, mais liée à des faits, entre guillemets, historiques ou véridiques. Van Gogh et Lautrec, par exemple, se sont bel et bien rencontrés. Il y a bel et bien eu une scène entre cette maîtresse dont vous parlez et Lautrec, une sorte de chantage au suicide, qui était en fait mensonger. Voilà, mais tout ça est ensuite romancé, et là, pour porter mon projet à moi, artistique, qui est cette succession de vies, ces trois vies que je raconte et qui s'intéressent au lien entre création et destruction.
Une magnifique invention, mais en même temps assujettie aussi à une langue, à la langue de l'époque, parce que je vois bien comment vous l'avez travaillé, cette langue, avec du vocabulaire qui est désuet aujourd'hui, cette façon de dire carne. Il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment très contextualisées. Et puis assujettie aussi à un rythme de vie. On sent, Mathieu Mégévent, que vous avez écrit en courant presque après Lautrec. Est-ce que effectivement l'écriture de ce livre peut être différente des autres concernant des artistes qui n'ont pas le même style.
Oui, bien sûr. Alors là, à chaque fois, évidemment, une fois qu'on a fait tout le travail de recherche, etc., et le plan du texte et tout, il doit se mettre en place un processus d'écriture de langue et, qui, pour moi, est très musical. Donc, si vous voulez, voilà, là, on peut pas me voir, mais je fais physiquement un mouvement.
C'est vrai.
Parce que il faut que vraiment cette vie-là, elle vous possède à un point que l'écriture elle-même soit imbibée et voilà, comme s'il en ressortait du sang de cet artiste dans l'écriture. En tout cas, moi, c'est l'image que j'ai. C'est pour ça donc qu'elle est très vive, qu'elle est très forte. Alors, il y a les mots qu'il pouvait utiliser, bat, carne, enfin des choses évidemment qui sont complètement des yeux aujourd'hui, mais qui servent à mieux s'imprégner du personnage. Mais le rythme elle-même, la langue, la musique du texte, tout ça est fait pour qu'on entre vraiment comme possédé, nous aussi, par cette possession.
Donc le style Lautrec a aussi influencé, enfin le peintre Lautrec a aussi influencé l'écrivain Mégévant.
Ah totalement, c'est-à-dire que je n'écrirais pas un autre livre exactement avec ce style-là. Ils ont tous, ils donnent beaucoup, chacun des trois artistes pour les trois vies, mais en retour, voilà, ils me hantent et ils me contaminent, très clairement.
Les femmes, le sexe qui vont perdre Lautrec, donc puisqu'il va contracter la syphilis, va beaucoup souffrir d'ailleurs, sans changer pour autant son mode de vie quasi suicidaire. Il sera interné d'ailleurs tant son alcoolisme le tue à petit feu, même à grand feu d'ailleurs. Et finalement, il meurt à 36 ans, sans descendance, sans enfant.
Sans descendance, sans enfant, il rentre chez lui... Il y a sa mère, son père aussi qui va revenir. Son père qui n'aura jamais rien compris à sa peinture laissera les droits entre guillemets de succession à son galeriste pour qu'il s'occupe de ça parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose, mais il sent aussi qu'il n'en a aucune espèce d'idée ou même d'intérêt. Mais oui, Lautrec, effectivement, c'est un excessif jusqu'au bout et malgré la syphilis, malgré la folie, malgré l'alcoolisme, qui est vraiment un alcoolisme, alors là, c'est massif, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est un type qui, malgré l'internement, boit plusieurs bouteilles par jour et que rien n'arrête et qui, sentant qu'il va mourir, rentre dans le sud-ouest chez lui et avec sa mère qui le suivra jusqu'au bout.
Mais de fait, qui va s'occuper de son œuvre? Qui va faire en sorte qu'elle passe à la postérité?
C'est Maurice Joyant, son galeriste attitré, celui qui organise sa première exposition de son vivant, donc, et qui a beaucoup fait, qui a ensuite, Lautrec va faire son portrait à la fin de sa vie, etc., de la vie de Lautrec, et qui va beaucoup faire pour Lautrec déjà de son vivant, qui va organiser une exposition à Londres, etc., et à sa mort, le père, justement, voyant qu'il n'y comprend rien, et sachant que ce Joyant, lui, s'y intéresse beaucoup, en plus ils sont de la même région, il va laisser tous les droits patrimoniaux à ce Maurice Joyant, et c'est lui, en fait, qui va faire en sorte que Lautrec, enfin que les peintures de Lautrec subviennent, etc., même si de son vivant, surtout les affiches, mais son œuvre était déjà connue, hein, c'était pas du tout un parfait inconnu de son vivant. Il a eu une grande renommée grâce à ses affiches, notamment le Moulin Rouge. Mais le reste, ses peintures, etc., c'est véritablement Maurice Joyant, qui est aussi l'auteur de la première biographie de Lautrec, que moi j'ai beaucoup utilisé justement pour mon travail. C'est lui qui va faire en sorte que Lautrec soit connu, c'est lui qui fait notamment le musée d'Albi, qui est encore aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'elle nous dit, l'œuvre de Lautrec, aujourd'hui?
Elle dit quelque chose d'extrêmement fort et particulier sur l'homme, sur l'être humain. Et il faut le voir, ou peut-être lire, pour tenter de mieux le comprendre.
Vivre?
Ouais, sur la vie, de comprendre et sans doute d'aimer l'être humain, débarrasser de tous ces apparats sociaux, voire culturels, etc., pour véritablement être dans la chair incarnée.
Aimer, boire, manger, et regarder cette peinture, et vous lire, évidemment. Merci beaucoup Mathieu Mégévant. Je rappelle que votre nouveau livre s'intitule donc Lautrec, qu'il a reçu le prix du Parisien Les Grands Destins, qu'il est publié chez Flammarion, et pour ceux qui ont la chance, avoir aussi cette grande exposition Toulouse-Lautrec qui se tient jusqu'au 20 janvier au Grand Palais à Paris.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Les éditions Jean-Claude.